Eh bien, ça fait plaisir de me retrouver parmi vous ce matin, de revoir aussi certaines personnes qui étaient présentes hier à ce séminaire de formation. Et comme le disait Jean-Marc, on a vécu un bon temps de formation. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là, je le redis encore une fois, nous réitérons encore une fois cette information. Vous avez la possibilité de suivre la formation de hier au travers de l'enregistrement qui a été effectué. Et si vous le prenez, gardez-le pour vous, d'accord ? Il ne faut pas le diffuser trop autour et surtout pas balancer ça un peu n'importe comment sur Internet, parce que parfois il y a des manières d'exprimer les choses ou des exemples qui peuvent être cités et autres qui ne sont pas forcément bons d'être dits partout. Je produis aussi, pour ceux qui s'y intéressent, des formations vidéo sur le sujet, et vous pouvez retrouver ça sur mon site qui porte mon nom, mais là les choses sont un petit peu plus ciblées et donc il y a plus de liberté aussi pour exprimer les choses différemment. Alors ce matin, je me propose avec vous non pas de rebondir sur le sujet de l'ésotérisme qui a été abordé pendant ce week-end, mais plutôt de nous focaliser sur la parole de Dieu, qui est déjà beaucoup plus lumineuse. Et même si le Seigneur parfois nous reprend, il le fait toujours avec beaucoup d'affection, comme cela nous a été rappelé ce matin, et toujours pour notre bien. Et je me propose avec vous d'essayer de commencer à réfléchir, à répondre à cette question, comment avancer avec un passé difficile ? Comment avancer quand on a vécu des événements douloureux dans nos vies ? Et quand on sonde un petit peu nos cœurs, eh bien finalement, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous passons tous dans notre existence par des moments plus ou moins difficiles. Des fois, nous arrivons à les traverser plus ou moins facilement. Comme nous l'avons dit ce matin, nous nous relevons, nous suivons le Christ, nous cheminons avec lui. Et puis, il y a parfois des éléments qui nous bloquent et qui nous empêchent vraiment de nous projeter dans notre vie. Où on tourne un petit peu en rond sur soi-même, on est là avec notre tristesse, notre désespoir, on a un mal fou à se projeter dans l'avenir. Et c'est comme si notre vie s'était arrêtée. Je pense à cette dame que j'ai rencontrée un jour dans une conférence que je donnais dans le Sud-Ouest, une femme qui 2 ans auparavant avait perdu son mari, et depuis que son mari était décédé, c'est comme si la vie de cette femme s'était arrêtée. Tous les deux étaient très liés, ils étaient proches, ils étaient fusionnels. Et le jour où son mari est décédé, c'est comme si sa vie s'est arrêtée. Elle continuait de travailler, elle continuait de manger, elle continuait de vaquer à ses occupations. Mais son horloge intérieure s'était arrêtée 2 ans auparavant. Elle était plus ou moins en dépression, elle n'arrivait plus du tout à se projeter. Pour certaines personnes, ça peut être parfois particulièrement douloureux. Alors comment avancer lorsqu'on a traversé des épreuves, lorsqu'on a un passé qui parfois vient régulièrement nous rattrape ? C'est ce que je me propose de voir avec vous ce matin. Alors bien sûr, nous ne serons pas exhaustifs sur le sujet, mais nous allons le faire au travers d'un texte de l'Ancien Testament qui va nous guider dans notre méditation, dans notre réflexion, un passage dans le premier livre de la Bible, qui est le livre de la Genèse. Et nous allons lire en réalité deux passages. Nous allons d'abord prendre Genèse au chapitre 41, et nous allons lire les versets 50 à 52. Et puis ensuite, on poursuivra au chapitre 48. Genèse, verset 41, chapitre 41, pardon, versets 50 et 52. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Et le second passage, qui sera plus long, au chapitre 48, du verset 8 au verset 22, il nous est dit la chose suivante. « Puis Israël, à savoir Jacob, regarda les fils de Joseph et demanda, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, Dieu me les a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. » La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien, Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage Et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Verset 12, « Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les deux par la main, il tint Éphraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de telle sorte qu'il était à droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. » Verset 14, « Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit que Dieu, ou le Dieu, devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons, que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsiste à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Ce n'est pas juste, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira les nations. » Il les bénit ce jour-là et il dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il plaça Éphraïm avant Manassé. » Et puis, ces deux versets qui concluent ce chapitre, « Israël dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Comment avancer malgré un passé qui peut être plus ou moins difficile, douloureux ? Eh bien, la réponse se trouve en réalité dans les deux noms que Joseph va donner à ses enfants. Et ces deux noms, ce sont plutôt ces deux noms qui vont nous occuper ce matin, sur lesquels nous allons réfléchir. Donc, d'une part, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, Éphraïm, et d'autre part, Manassé. Mais avant de voir un petit peu ce que ces noms ont à nous dire et comment est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre réalité, je vous propose de télécharger rapidement un petit peu l'histoire de Joseph dans notre esprit pour nous en rappeler. Télécharger simplement ça un petit peu, vous savez, comme sur un ordinateur, la mémoire vive, elle a parfois besoin d'être rafraîchie. Donc un petit rafraîchissement rapide de notre mémoire vive. Vous le savez, Joseph est un des personnages de premier plan dans l'Ancien Testament. Et en particulier dans le livre de la Genèse, on parle souvent, non pas de la saga de Star Wars, mais on va parler de la saga de Joseph, qui occupe quand même beaucoup de chapitres, puisque les chapitres 37 à 50 sont consacrés à cet homme. Il est le fils du patriarche Jacob, lui-même fils d'Isaac et fils d'Abraham, et il est le 11e fils de Jacob, le premier-né qu'il a eu avec Rachel, la femme qu'il aimait. Joseph, c'est le chouchou de la famille. Et le fait qu'il soit devenu le chouchou de la famille, ça va déclencher pas mal de problèmes, ça va déclencher la jalousie de ses grands frères qui vont profiter d'une visite de leur frère pour le vendre à des marchands d'esclaves et faire croire à Jacob que son petit chouchou est mort. Suite à cela, il va être amené en Égypte, où il est vendu au commandant des gardes de Pharaon, Potiphar, qui fait de lui l'intendant de sa maison. Et là, il va être harcelé par la femme de Potiphar, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui une cougar, qui va lui faire des avances. Ben oui, c'est ça, hein, qui va lui faire des avances. Et Joseph, bien sûr, va décliner ses avances. Et suite à cela, il va être accusé injustement de viol. Il est jeté en prison. Il reste en prison plusieurs années. Là, il va rencontrer deux personnages qui travaillent auprès du Pharaon, qui sont importants, à qui il va interpréter à un moment deux rêves. Par la suite, ceux-ci vont être réhabilités, vont oublier Joseph Et c'est seulement bien des années après, alors que Pharaon a fait tout un rêve, que enfin ces deux hommes, ces deux hauts fonctionnaires, dirions-nous aujourd'hui, eh bien, vont se rappeler qu'ils ont rencontré, en prison un certain Joseph qui est capable d'interpréter les rêves. Et là, Joseph va connaître un moment, une période particulièrement faste de sa vie, puisqu'il va interpréter ses rêves. Et du jour au lendemain, voilà que Joseph se retrouve Premier ministre, ou alors, comme on disait à l'époque, il est maintenant le grand vizir, le bras droit de Pharaon. Donc Joseph, c'est l'histoire, une histoire extraordinaire, une histoire faite de rebondissements. C'est une histoire de déchirure, une histoire de jalousie, de trahison, de toutes sortes de péripéties. En réalité, Joseph, c'est l'histoire d'un homme qui aurait eu toutes les raisons d'en vouloir au monde entier, d'en avoir gros sur la patate. Les meilleures années de sa vie, de l'âge de 17 ans jusqu'à 30 ans, il les passe en Égypte, en prison. Bref, ce qui se passe est terrible. C'est une période de nos vies, généralement, où on va étudier, on entre dans la vie, où on est plein de rêves, de projets, d'énergie. Une période qui est gâchée, après avoir vécu une enfance plus ou moins dorée. Un homme qui aurait eu toutes les raisons d'en vouloir au monde entier. Et pourtant, lorsque nous étudions son récit et que nous voyons sa vie, nous voyons que Joseph, progressivement, devient un homme pacifié. Un homme qui a réussi, quelque part, à dépasser son passé. Et donc, par conséquent, qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Alors qu'il est en Égypte et qu'il est maintenant dans une période particulièrement faste de sa vie, il y a donc deux enfants, nous disions précédemment, qui vont naître de son union avec la fille du grand prêtre, deux enfants qui naissent, et les noms que Joseph va donner à ses enfants sont particulièrement révélateurs. Ce n'est pas des noms au hasard. Ils n'ont pas pris le dictionnaire, ils n'ont pas tapé sur Google quels sont les prénoms tendance en telle année avant Jésus-Christ, absolument pas. Ils donnent des noms qui sont représentatifs pour eux. Et vous savez que dans la tradition juive, le nom revêt une grande importance. Souvent, les noms dans la Bible disent quelque chose d'une partie de la vie, voire même de toute la vie, de ce qui va se passer pour un individu. Parfois même les noms ont quelque chose de prophétique, appellent quelque chose qui devra se passer à un moment donné dans la vie d'un individu. Nous avons avec mon épouse 4 enfants et nous avons décidé, pour chacun d'entre eux bien sûr, d'essayer de donner des prénoms qui avaient du sens et nous pensions qu'il y aurait aussi du sens pour eux, pour leur vie. Et nous avons aussi appelé notre petit dernier, qui est parfois aussi un peu considéré, notamment par le papa, un peu comme le chouchou, quoi. Moins par mon épouse qui essaye d'aimer les enfants de manière plus uniforme et juste, même si, bien sûr, je les aime tous, hein, mais parfois on a tendance à considérer le petit dernier, c'est mon cas, comme le chouchou. On l'a appelé Raphaël. Et si on l'a appelé Raphaël, c'est pas pour rien, puisque Raphaël signifie, comme vous le savez, Dieu guérit. Il y a la racine hébraïque Rapha qui signifie guérison ou guéri, et puis il y a la particule El qui est la particule de Dieu qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. Et si nous l'avons appelé ainsi, c'est parce que lorsque mon épouse l'attendait, eh bien, elle a, à un moment donné, on lui a diagnostiqué ce qu'on appelle un nigromachistique, c'est-à-dire une grosseur au niveau de la nuque, et quand c'est très présent et fortement qu'il y a 8 ou 9 millimètres, ce qui était le cas, c'est un des signes d'une probable trisomie. Alors à l'époque, bien sûr, nous avions décidé de le garder, le gynécologue connaissait nos convictions, et il nous a proposé de faire des examens complémentaires pour essayer de voir s'il n'y avait pas, qu'est-ce qu'il en était, mais nous avons refusé, étant donné qu'il y avait un fort taux de probabilité peut-être d'avoir une fausse couche ou alors de toucher l'enfant, par exemple. Ça peut parfois être un petit peu dangereux, ces amniocentèses, en particulier au début. Et nous avons décidé, pendant toute cette période-là, où nous étions, surtout pour ma part, assez inquiets, beaucoup moins mon épouse, de lancer toute une chaîne de prières. Et nous avons des gens qui ont prié de partout, de France, de Suisse, de Belgique, d'Haïti, où j'allais beaucoup à l'époque, d'Afrique aussi, de plein de pays d'Afrique francophone où j'étais. Et on a lancé toute une chaîne de prières. Mon épouse allait faire les examens chez le gynéco, qui lui disait, écoutez, c'est toujours présent, préparez-vous, vous aurez peut-être un enfant probablement trisomique. Et nous ne savions pas ce qu'il en était. Et puis finalement, voilà que notre petit est né, en plus dans des circonstances particulières, puisque mon épouse accouche très vite, il est né à la maison, sur le sol de la salle de bain, de manière totalement inattendue. C'est moi qui l'ai récupéré, qui ai failli le faire tomber, parce que c'est des savonnettes hein, quand ils naissent. Et puis je me suis retrouvé avec le petit, les pompiers qui sont arrivés 10 minutes après, et le petit qui braillait, donc c'était bon signe. Et je regarde sa tête et je me dis, mais il n'a pas la tête d'un trisomique apparemment, hein, de ce que je pouvais voir. Et une demi-heure après, ce sont les secours de Belfort qui sont arrivés. Et puis finalement, après les examens qui ont été faits, le diagnostic a été posé, il était en parfaite santé. Et donc nous avons choisi de l'appeler Raphaël. Et si nous l'avons appelé ainsi, c'est pour nous rappeler, même si nous ne sommes pas 100% sûrs, qu'un jour dans son histoire, nous le croyons, Dieu a agi et Dieu est intervenu. Et c'est vrai que ce petit, depuis qu'il est enfant, a toujours eu débordé toujours d'énergie. Le matin, il se levait, il avait la patate. Le soir, il se couche, il a la patate. Il est heureux le matin, l'après-midi, il est toujours content, il est toujours heureux. Des fois, je dis, il y a trop de gens qui ont prié pour lui. Je ne pense pas qu'on puisse trop prier pour quelqu'un, mais nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants particulièrement à Dieu parce que, eh bien, Dieu aurait pu laisser les choses ainsi. Et il aurait pu naître trisomique aussi. Et cela n'aurait rien changé à l'amour et à la grâce de Dieu à notre égard. Mais nous l'avons appelé ainsi. Alors Joseph, lui, appelle son aîné, non pas Raphaël, mais il va l'appeler Manassé. Ce nom hébraïque vient du verbe nasha, qui signifie oublier, privé. Et si Joseph nomme ainsi son aîné, c'est pour, je crois, indiquer qu'une partie de sa vie a été marquée par la déchirure avec cette famille, par son exil, par la prison. Et il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Alors comment faut-il comprendre ce passage? Si vous lisez le commentaire de Calvin, qui est très intéressant sur le livre de la Genèse, qui n'est pas forcément toujours facile, surtout au niveau du français, Calvin faisait des très très longues phrases, un peu comme l'apôtre Paul, voire même parfois plus longues. Calvin dit en substance la chose suivante, voilà que Joseph se retrouve en Égypte et que tout d'un coup, voilà, monsieur est pris par les honneurs de l'Égypte, il est pris par le faste, qu'il en arrive finalement à oublier complètement d'où il vient. Voilà comment est-ce que Calvin comprend ce passage-là, il dit il a complètement oublié d'où est-ce qu'il vient, on lui pardonne tout juste. Alors j'ai beaucoup de respect pour le réformateur Jean Calvin, qui est un monument, un monstre, quelqu'un d'important, mais pour le coup je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Je pense que si Joseph appelle son Manassé, tout simplement, ce n'est pas parce que quelque part Joseph a oublié d'où est-ce qu'il vient, mais c'est justement pour qu'il se rappelle d'où est-ce qu'il vient et tout le chemin que le Seigneur lui a fait parcourir du reste. Comment peut-on oublier l'histoire, une vie telle que celle que Joseph a vécue? Hein, s'il appelle son fils Manassé, c'est justement pour ne pas oublier. Et comment peut-on oublier un passé comme celui de Joseph? Mais s'il appelle ainsi, c'est non seulement pour qu'il s'en rappelle, mais aussi quelque part, ça nous montre que cet homme, Joseph, est un homme qui a fait aussi tout un travail sur lui-même, qui est en paix, qui progressivement, alors peut-être qu'il ne l'est pas encore à ce moment-là, pleinement au chapitre 41, mais on le voit, c'est un homme qui progressivement est guéri de son passé, va réussir à avoir une sorte de passé qui va être vraiment pacifié, et on le voit dans la suite du récit d'ailleurs, c'est un homme qui a réussi à oublier, pourquoi? Parce qu'il a pardonné à ses frères, et parce que justement quelques chapitres après, il va leur pardonner. Et je crois que nous avons là d'une certaine manière, une précieuse indication et une première indication pour nous aujourd'hui. Pour avancer dans la vie, frères et sœurs, que nous ayons un passé particulièrement douloureux, ou alors que notre passé ne soit pas particulièrement difficile. Mais parfois, il y a des chrétiens hein, qui aiment bien Radio Nostalgie. Radio Nostalgie, c'est on vit un petit peu dans le passé. On vit dans ce qu'on a pu connaître il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors c'est bien de savoir d'où est-ce que nous venons, etc. Mais parfois on vit un petit peu dans le passé. Et je crois que pour avancer dans la vie, une des clés qui nous est donnée ici, c'est l'oubli. Et cette clé, on ne la retrouve pas simplement dans ce passage, on la retrouve dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël est en exil, les prophètes, Ésaïe dira par exemple, « Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire, dit Dieu, une chose nouvelle. » Cette pensée, nous la retrouvons aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile par exemple, lorsque Jésus dira au disciple qui veut enterrer son père, il dira « Laisse les morts enterrer les morts ». Ça ne veut pas dire que Jésus est contre les enterrements absolument, mais ce qu'il dit ici, c'est que le passé, autrement dit les morts, ne doivent pas nous empêcher de vivre. Ça ne doit pas nous empêcher de nous projeter, de rêver, d'avancer dans notre vie. Et l'apôtre Paul tiendra exactement le même discours. Que dira-t-il ? Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 13 et 14, il dira « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Oubliant ce qui est derrière. Première chose qu'il dit, et me portant vers ce qui est devant. Paul, ou Saul, avant de rencontrer le Christ, avait un passé lourd, difficile, persécuteur de l'Église du Christ qu'il va servir par la suite. Un homme aussi qui aurait eu toutes les raisons de rester prisonnier de toute une partie de sa vie, de bien d'éléments qui, le texte biblique ne nous dit pas tout, il nous donne l'essentiel, la quintessence, mais beaucoup d'éléments ne sont pas là. Un homme qui avait probablement des raisons de se sentir coupable face au Seigneur, et pourtant un homme qui se projette sans cesse vers l'avant. Et pourquoi arrive-t-il à se projeter vers l'avenir ? Parce qu'il a réussi à oublier. Nous le disions en introduction, et je reviens à nouveau là-dessus, tant de personnes sont prisonnières de leur passé. S'il y a bien une chose qui m'a interpellé au cours de mes années de ministère, c'est j'ai souvent des gens partout, de toute communauté, qui viennent ou qui m'appellent et qui me demandent des entretiens, pas simplement pour des problèmes occultes ou de délivrance, etc. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que nombre de personnes ou nombre de chrétiens sont bloqués avec leur passé. Combien de fois en entretien, ce sont des centaines d'entretiens, où finalement il est question de quoi ? Du passé, d'un problème dans le couple, d'une difficulté avec les enfants, d'une grâce qui a été faite, d'une difficulté au travail, quelque chose qui n'a pas réussi à être surmonté et qui est là et qui, comme une sorte de musique un petit peu, tourne en fond dans la tête. Hein, ou comme ceux qui parfois ont malheureusement des acouphènes, eh bien c'est là tout le temps en fond, c'est là tout le temps, ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et ces personnes reviennent tout le temps sur leur passé. Et parfois avec un double langage, d'une part vous avez l'impression qu'elles ont oublié, qu'elles ont pardonné, mais finalement dans leur manière d'en parler, eh bien vous voyez que quelque part elles n'ont peut-être pas pardonné ou elles n'ont pas vraiment oublié. Et qu'elles n'ont pas réussi à dépasser certaines choses et qu'elles sont prisonnières toujours de cela. Et qu'elles n'arrivent pas à s'en détacher une bonne fois pour toutes. Et alors c'est problématique dans la vie des individus. Il y a l'amertume, on n'avance pas, etc. La première chose qui nous est proposée ici, c'est en effet d'oublier avec son sens premier, c'est-à-dire laisser les choses derrière soi, tout en se rappelant, bien sûr, comme c'est le cas de Joseph, d'où est-ce que nous venons. Mais il y a autre chose d'intéressant, un second aspect avec l'oubli. Et cet aspect se trouve aussi dans le nom de Manassé. La tradition juive fait remarquer que le verbe « nasha », que nous traduisons habituellement par « oublier », signifie aussi « être débiteur » ou alors « prêter », « être créancier ». C'est d'ailleurs la traduction qu'a choisie la Bible de la Tob, qui est une traduction que j'aime beaucoup, la traduction œcuménique de la Bible, qui dit ceci, « Il appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a crédité de toutes mes peines et porte à crédit toute la maison de mon père. » Traduction intéressante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Joseph reconnaît que malgré son passé, malgré les mauvais traitements que ses frères lui ont fait subir, malgré la prison qui est injuste, malgré la relation avec la femme de Potiphar qui est totalement injuste, malgré les mauvais traitements, quelque part, Dieu a utilisé cela pour le mener là où il est. Et donc, par conséquent, il est débiteur, il est créditeur de cela. Non pas que Dieu ait voulu ses souffrances, Dieu ne veut jamais le mal, la maladie, la souffrance. Ce n'est pas Dieu qui se plaît à nous envoyer des peaux de banane. Il a autre chose à faire que nous mettre des peaux de banane sur notre chemin pour nous dire « Tiens, regarde comme il s'est encore cassé la figure celui-là » et puis il se marrait quelque part. Absolument pas. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Nous vivons dans un monde pécheur, déchu, et donc le mal touche tous les êtres humains, et qui plus est, nous autres en tant que chrétiens, il y a le malin aussi qui lui, par contre, il nous jette des peaux de banane. Oui. Ça, il sait faire. Mais Dieu ne nous jette pas des peaux de banane. Mais j'allais dire la magie. Alors le terme n'est pas juste hein, de parler de magie. C'est un petit clin d'œil en référence à ce qu'on a vu hier. Mais j'allais dire le miracle de Dieu, c'est d'arriver à utiliser tous ces événements contraires qui peut-être ne faisaient pas partie de son plan initial pour nos vies, mais d'utiliser cela pour les porter à notre crédit. Et que nous, à notre tour, nous allons pouvoir retirer quelque chose de positif de cela. Encore faut-il, bien sûr, apprendre des leçons de son passé. Ça demande de faire un travail sur soi-même, ça demande de revisiter son histoire, ça demande de voir où est-ce que Dieu était présent dans notre histoire. Je pense à Joyce Meyer, alors sur le plan théologique, ce n'est pas forcément une référence, Joyce Meyer, mais son histoire est fabuleuse, vous la connaissez peut-être. Son histoire, cette femme qui a été abusée pendant tant d'années, qui s'est retrouvée complètement détruite et qui se retrouve aujourd'hui comme étant une grande motivatrice, une grande prédicatrice, une femme qui a eu et qui continue à son âge d'avoir un impact considérable auprès de personnes qui ont été blessées, rejetées, avec un état d'esprit positif. Non pas que Dieu ait voulu ce qu'elle ait vécu ou ce qu'elle a vécu. Mais Dieu a utilisé cela. Et tous dans nos vies, nous avons des moments difficiles. Moi-même, j'ai mon père qui a abandonné ma maman lorsque j'avais 6 ans. Je me suis retrouvé tout seul. Je suis l'aîné. Il y a mon frère, ma sœur qui avait 3 ans. C'est ensuite ma mère qui nous a élevés. Après, elle n'avait plus rien à nous donner à manger. Et donc, elle a dû partir pour travailler sur Strasbourg. Et c'est ma grand-mère qui nous a élevés pendant des années. Après, c'est ma mère qui nous a repris. Pendant ma période d'adolescence, il n'y avait pas de papa à la maison, c'était particulièrement compliqué. Et ben voilà des circonstances de vie, et certains ont des circonstances de vie bien plus compliquées que cela. Hein? Dieu ne veut pas ça pour nous. Mais Dieu utilise ces circonstances, et même si on vit des échecs, des moments où on n'arrive pas, on n'avance pas, Dieu utilise cela quelque part, il crédite cela, si toutefois, bien sûr, nous allons apprendre quelque chose de cela. Alors Manassé, c'est donc l'oubli avec ce double sens que je trouve très intéressant, à la fois laisser le passé derrière nous, en étant libéré de l'amertume, des déceptions, grâce au pardon, en faisant un travail sur soi-même, et puis en même temps, comme je viens de le dire aussi, eh bien, c'est reconnaître tout le bien que le passé nous a apporté, ou plutôt tout le bien que Dieu a réussi à tirer. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul dira que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Littéralement, il dit « toutes choses concourent à notre bien », mais en réalité, c'est Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, Dieu est tellement grand et tellement puissant que peu importe les circonstances de nos vies, il arrive toujours, à partir du moment où nous lui ouvrons la porte, où nous nous tournons vers lui, arriver à rattraper la situation. Et il y a là quelque chose qui nous parle de la grandeur et de la puissance de Dieu qui maîtrise toutes choses. Donc, un double sens, à la fois, comme nous le disions, laisser derrière soi, et puis ensuite, savoir tirer quelque chose de notre passé. Même, on n'a pas voulu notre passé, mais Dieu peut utiliser cela pour sa gloire. La seconde clé nous est donnée ensuite avec le prénom que Joseph donne à son second fils, Éphraïm. Heureusement qu'il n'a pas eu 15 gosses, hein, sinon ça aurait été un petit peu long ce matin. Il n'y en a que deux. Il y a eu Manassé et puis maintenant il y a Éphraïm. Éphraïm aussi qui vient de l'hébreu, bien sûr, Ephrata, et qui signifie littéralement le lieu de fécondité. Alors le mot est construit sur la racine hébraïque qui signifie littéralement porter du fruit ou alors être fructueux. Et là aussi, ce n'est pas par hasard que Joseph nomme le cadet fécondité. En le nommant ainsi, Joseph nous montre que c'est un homme qui n'est pas simplement tourné vers le passé, qui a su oublier, mais c'est un homme qui est tourné en réalité vers l'avenir. C'est un homme qui voit devant lui. C'est un homme qui voit que Dieu l'a placé dans la situation dans laquelle il est, non pas pour qu'il en profite soi-même et s'en mette plein les poches et se crée une belle situation, même si ça découlera aussi en partie, mais s'il l'a placé là, c'est pour une raison bien précise. Dieu l'a placé là. Et Joseph, c'est un homme tourné vers l'avenir. Et du reste, si vous devenez premier ministre, voire même ministre ou autre, mieux vaut être, ne pas trop être un homme du passé, mais plutôt être un homme de l'avenir. Et souvent, c'est une des caractéristiques des leaders, c'est qu'ils sont tournés vers l'avenir, qu'ils savent saisir les opportunités. Et Joseph comprend que si Dieu l'a placé là, c'est pour qu'il soit source de bénédiction, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour son peuple. Et que Dieu, au travers de lui, a prévu quelque chose pour l'avenir de son peuple. Et donc, c'est un homme qui sait saisir les occasions. Et il comprend que c'est pour lui, maintenant, en Égypte, le temps de la bénédiction, de la multiplication. C'est le temps aussi où il va pouvoir développer tout le potentiel que Dieu lui a donné. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse, et je trouve ça très intéressant. C'est seulement une fois qu'il est en Égypte, premier ministre, qu'il va vraiment pouvoir développer tout son potentiel. Certes, son potentiel, il l'a déjà exprimé à bien des reprises. Il l'a exprimé chez Potiphar, il était déjà présent à la maison, il était présent aussi lorsqu'il était en prison, puisqu'il était, il avait une grande responsabilité, son potentiel était là. Mais là où son potentiel se développe pleinement, c'est lorsqu'il se retrouve en Égypte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que souvent, Dieu, dans nos vies, eh bien, il nous donne toutes sortes de dons, de talents, de potentialités qui sont là. Mais que ces potentialités, elles prennent du temps, non seulement pour éclore, mais aussi pour pouvoir se développer et devenir source de bénédiction. Elles sont source de bénédiction, mais parfois dans nos cœurs, on ressent qu'il y a plus pour nous, que Dieu a prévu autre chose pour nous encore, et parfois on peut un petit peu ronger notre frein. Et il faut faire attention, il faut être prudent et nous rappeler que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Nous voyons les années qui s'écoulent, qui s'égrènent. On voit le temps qui arrive, on voit les forces qui diminuent. Mais ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il y a un temps de maturation qui, parfois, dans nos vies, est nécessaire. Jusqu'à ce qu'on va pouvoir... Il y a un travail qui est fait dans nos vies et on va pouvoir pleinement exprimer le potentiel qui est là. Eh bien, c'est ce qui arrive lorsque Joseph se retrouve en Égypte. C'est le temps de porter du fruit et c'est pour ça qu'il appelle eh bien, son second Éphraïm, être fructueux au lieu de fécondité. Et je me dis que là, il y a quelque chose de beau. Et j'aime beaucoup cette notion de fécondité qu'on retrouve ici dans la racine hébraïque du mot Éphraïm. Et ça nous dit quelque chose de Dieu. Ce que ça nous dit de Dieu, c'est que Dieu, contrairement à Satan, et contrairement aux démons, n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu de vie. C'est un Dieu qui bouge, qui avance. C'est un Dieu qui, quand il touche quelqu'un ou quelque chose, il y a la vie qui germe. Peu importe la situation de la personne. Je lisais un jour le témoignage d'un curé qui avait été pendant de nombreuses années exorciste et qui avait eu aussi de nombreuses, des centaines, voire des milliers de personnes venant en entretien et qui disait dans son ouvrage combien il était triste et fatigué parfois de tous ces entretiens où des personnes venaient confesser leurs péchés, leurs difficultés, parce qu'il disait c'est toujours la même chose que les gens viennent confesser. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes écueils, les mêmes péchés dans lesquels ils tombent. Nous tombons, puisque nous sommes des êtres humains. Et il disait par là que quelque part, que le malin qui se trouve un petit peu, le mal qui se trouve derrière tout cela, même si nous sommes bien sûr responsables, le malin ne sait absolument pas faire preuve de créativité. Il n'a aucune créativité. C'est toujours les mêmes recettes qu'ils nous ressortent. Vous savez, comme ces restaurants où vous allez manger, ils ont juste 2-3 menus, et puis c'est tout ce qu'ils ont, c'est leur manière de fonctionner. Alors ça marche, mais c'est toujours la même chose à manger, c'est toujours le même, même repas. Alors que Dieu, c'est jamais la même chose. Si ce matin nous demandions aux uns et aux autres de raconter votre cheminement spirituel, comment vous avez rencontré le Christ, qu'est-ce que vous avez vécu ces derniers temps, pour chacun ce serait différent. Hier soir nous avons mangé ensemble, discuté un peu, partagé, entendu la vie des uns et des autres. Au travers de la vie de Michel, eh bien, on a pu voir combien Dieu était créatif dans sa vie. Au travers de la vie de Jean-Marc aussi, etc. Et c'est intéressant parce que pour chacun c'est différent. Quand Dieu touche quelqu'un, c'est toujours différent. Donc Dieu est ce Dieu qui fructifie. fructifie. Et il y a quelque chose de beau ici. Et cette notion de fructifier fait partie, rappelons-le ici, du projet initial de Dieu. Au début du livre de la Genèse, vous retrouvez le même verbe « para » qui se trouve dans le nom d'Éphraïm, justement, lorsque Dieu dit en Genèse 1:28 à l'homme et la femme « soyez féconds ». Ça, c'est le prochain slogan de notre gouvernement, puisqu'on manque d'enfants. Hein. Donc, soyez féconds. On peut comprendre le passage de deux manières lorsqu'il dit soyez féconds. On peut le comprendre dans le sens premier, hein, faites des gosses. Et puis, on peut le comprendre dans un sens aussi un peu plus intérieur, spirituel, que vos vies soient fécondes. Pas simplement faites des enfants, multipliez-vous, mais que la vie que je vous ai donnée soit féconde. Dieu ne nous appelle pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vivre dans le passé, mais à nous projeter dans l'avenir, à rêver, à faire des projets, à espérer. Et il y a là une deuxième clé pour avancer dans notre vie. Il y a là même quelque chose de beau, de lumineux. Combien de fois j'ai rencontré des hommes, des femmes ? Combien de fois moi-même aussi ? J'ai laissé tourner peut-être un petit peu trop Radio Nostalgie. Radio Nostalgie, c'est bien pour les chants des années 80-90, ça nous rappelle notre jeunesse et autres. Voilà, mais quand on vit Radio Nostalgie, là ça ne va plus. Mais combien de personnes sont bloquées avec leur passé, pensent qu'il n'y a plus d'avenir, plus d'espérance ? C'est plus possible. Eh bien, ce que vit Joseph ici, et le fait qu'il appelle son enfant, son cadet, Éphraïm, nous dit, eh bien non, il y a cette possibilité d'être fructueux. Non seulement d'être fructueux lorsque nous sommes jeunes, lorsque nous sommes dans la force de l'âge, 30 ans, 35, 40 ans, mais lorsque nous commençons à prendre un petit peu de bouteille, et lorsque nous arrivons tout doucement dans le troisième, quatrième, cinquième âge, que sais-je, quelle que soit la période de la vie dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, nous pouvons être fructueux. Faisons attention à ne pas nous laisser enfermer par ce jeunisme qui touche aussi de plus en plus nos milieux évangéliques. Alors c'est bien de mettre les jeunes en avant, il faut les mettre en avant, et Dieu agit parmi la jeunesse. Mais parfois dans nos milieux chrétiens, moi c'est ce que je vois à droite, à gauche où je vais, on a une tendance comme à tout baser sur uniquement les jeunes, comme si c'était la réponse à tout, et comme si les autres qui sont un petit peu plus âgés, voire beaucoup plus âgés, eh bien n'ont plus rien à dire, comme si Dieu ne voulait plus fructifier leur vie. Frères et sœurs, à quel âge Abraham commence son ministère ? Rappelez-moi. 75 balais, il part de la maison et c'est 99, 100 ans qu'il a Isaac, quoi. Autrement dit, normalement, à un âge, alors certes, à l'époque, on vivait autrement, mais quand même, il avait déjà de la bouteille, le gars. 75 ans, il entend la voix de Dieu et il se met en route, quoi. Dans notre église, nous avons un frère qui est un médecin chirurgien à la retraite et qui a, je ne sais pas, 74, 75, ça va, hein, et il y va. Il est en ce moment au Laos avec son épouse qui a eu un grave problème de santé. Les médecins ont pu le soigner. Dieu est intervenu aussi dans cette histoire. Elle s'en est sortie miraculeusement. Et le gars, il est dans des projets de folie, quoi. Chaque fois qu'il revient dans notre église, il nous parle d'une entreprise. Il a lancé un truc de coton. Là, il vient de lancer. Il a réussi à avoir de Suisse une machine qui vaut plus de 200 000 francs suisses pour créer des barres de céréales pour les gens, pour la population. Enfin, il a des projets de dingue, quoi. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir un jeune qui lance une start-up et qui a une trentaine d'années, qui sort de Sciences Po ou je ne sais pas trop de où, tu vois. Et le mec, il a 75 et quand il vient, il a 36 000 projets, quoi. Et j'aime tellement ça parce que ben, pour lui, ça lui correspond. Et sa vie continue de fructifier. Ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge, ce n'est pas parce qu'on a vécu des épreuves, ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une période de notre vie où on n'a pas forcément beaucoup de moyens, où c'est compliqué, où on est au chômage, que Dieu ne veut pas faire fructifier notre vie. Frères et sœurs, c'est quoi cette mentalité ? À n'importe quel âge, nous pouvons être fructueux pour le royaume de Dieu. Pour chacun, ce sera différent. Il y en a qui vont être fructueux dans la prière, dans l'intercession. Il y en a qui vont être fructueux dans l'encouragement, dans les dons spirituels que Dieu va leur donner, pour l'Église, pour des personnes autour d'eux. Il y en a qui vont être fructueux dans la générosité, parce que Dieu leur a donné ce don-là. Il y en a qui vont être fructueux dans l'annonce de l'Évangile. Il y en a qui vont être fructueux dans la critique. Non, ça, c'est pas le bon truc, ça, pardon. Hein, il y en a qui vont être fructueux, ça, il faut s'en repentir. Hein. Mais il y en a qui vont être fructueux dans d'autres domaines. Cette notion est là et nous sommes appelés à porter nos regards vers demain, sachant que le meilleur, comme dit Patrice Martorano, et il a raison, est toujours devant nous. Alors avant de conclure, il y a encore deux choses que j'aimerais relever à propos du nom d'Éphraïm. Deux choses dont je me suis inspiré de la tradition juive et des commentaires sur le sujet. La première, c'est que certains juifs, au début de chaque sabbat, à savoir le vendredi soir, reprennent les paroles de bénédiction de Jacob sur ses deux fils. Et j'ai été surpris de découvrir cela. Paroles que nous avons lues au début de mon intervention, à savoir Genèse 48, 20. « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé. » Et j'ai aussi découvert que chaque année, lors de la fête du Grand Pardon, qu'on appelle la fête du Yom Kippour, qui est pour les Juifs, comme vous le savez, ou qui était pour les Juifs autrefois, le grand jour. Hein, au temps de Jésus, ils appelaient ce jour-là le jour. Voilà, le jour plus important de l'année, c'est là où on recevait le pardon. Eh bien, le jour de la fête du pardon, ils reprennent aussi cette prière et bénissent leurs enfants. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que depuis des générations, les Juifs ne choisissent pas de bénir en souhaitant, par exemple, d'être à l'image de Moïse, qui est le grand médiateur de l'ancienne alliance, ou alors d'Abraham, le père des croyants, ou alors d'Isaac, ou même de Jacob. Pourquoi utiliser un personnage ou des personnages, Éphraïm et Manassé, qui sont ce qu'on appelle dans la Bible des personnages de second plan, c'est-à-dire de moindre importance, on parle moins d'eux, c'est moins développé. Pourquoi est-ce qu'ils bénissent avec Éphraïm et Manassé? Eh bien, les spécialistes proposent la chose suivante, à savoir que la réponse se trouve dans la signification des noms que nous avons vus jusqu'à présent. À savoir, oublier avec ce double sens, et puis ensuite, fructifier. Et l'idée, quelque part, serait de dire que chaque semaine, chaque année, régulièrement dans nos vies, quelque part, nous sommes appelés à transmettre à nouveau cette bénédiction à nos proches et leur dire « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé », autrement dit « Puisse l'Éternel faire que tu oublies mon frère, que tu oublies ma sœur et que tu fructifies mon frère et que tu fructifies ma sœur ». Et quand on pense que le peuple d'Israël s'est béni ainsi, entre autres, avec cette bénédiction, on se dit « Waouh, il y a là quelque chose de prophétique ». Y a-t-il un peuple dans l'histoire qui a autant souffert que ce peuple? Y a-t-il un peuple dans l'histoire du monde qui a autant été persécuté que ce peuple-là? Et pourtant, quand on regarde, quand on lit son histoire, eh bien, on voit que ce peuple a sans cesse su se relever. De ses cendres, de ses décombres, sans cesse, ce peuple s'est relevé et s'est projeté vers l'avenir. 30% des prix Nobel, je lisais, eh bien, sont issus du peuple juif. Un peuple qui sans cesse s'est projeté vers l'avenir. Les nouvelles technologies que nous connaissons aujourd'hui, les champions au niveau mondial, nous le savons, sont les Israélites, entre autres, et bien d'autres. C'est eux où se trouvent plein de start-up qui développent des projets de malades, des trucs de fous. Et pour nous aussi, il y a quelque chose là de prophétique, à savoir que malgré les épreuves, le passé, nous pouvons porter du fruit et quelque part, nous pouvons nous bénir et souhaiter que notre famille, nos enfants, dire quand nous prions en famille ou dire lorsque nous prions seuls, puisse mes enfants, puisse ma famille, puisse mon épouse, puisse moi-même, puissions-nous être à l'image d'Éphraïm et de Manassé. Savoir toujours à nouveau oublier, parce qu'on a besoin de nous le rappeler, c'est très important, parce que sans cesse Radio Nostalgie, ça revient. Et puissions-nous aussi fructifier. Nous rappeler que quelle que soit la saison de la vie dans laquelle nous sommes, nous pouvons fructifier. Et puis la deuxième chose à propos d'Éphraïm se trouve aussi au chapitre 48. Dans la bénédiction que Jacob va donner, on ne va pas tout commenter, mais il y a là quelque chose de très intéressant. Alors que Joseph présente ses deux fils à Jacob, on l'a lu tout à l'heure, et que celui-ci les bénisse dans l'ordre, la main droite sur l'aîné et la gauche sur le cadet, comme c'était normalement la coutume, qu'est-ce qu'il fait Jacob? Il switch. C'est-à-dire, il va croiser les mains. Il va croiser les mains et Joseph va être embêté par ça. Hein, et il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dira, je sais mon fils, je sais, Manassé aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance deviendra un ensemble de nations. Et pourquoi Jacob agit-il ici? Est-ce qu'il agit ainsi parce qu'il est vieux, parce qu'il est âgé? Oui, il est vieux, oui, il est âgé, oui, aussi nous dit le texte, il ne voit plus très bien. Mais le texte nous dit qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Autrement dit, il n'est pas sénile. pas trop. Il sait à ce moment-là ce qui est en train de se passer. Et une des interprétations proposées par certains spécialistes, et je trouve ça très intéressant et je la reprends, c'est de dire que Jacob, en réalité, met Éphraïm avant Manassé. Et ce qu'il fait ici, c'est qu'il met la fécondité ou la multiplication avant l'oubli. Oublier, c'est important, mais même avant d'oublier, ce qui est encore plus important, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est de fructifier. Et c'est dans ce sens-là que le réformateur Martin Luther disait, on lui attribue cette parole, à savoir que si aujourd'hui ou si demain plutôt la fin du monde devait avoir lieu, aujourd'hui, dit-il encore, je planterai un arbre ou un pommier, je ne sais plus s'il a dit arbre ou pommier. Et j'aime tellement cette citation de Luther. Moi-même, je suis issu des églises luthériennes à la base, c'est là où j'ai fait mon catéchisme, etc. C'est dans ce milieu-là que je me suis converti grâce au témoignage de ma grand-mère dans des églises très traditionnelles. Et j'aime tellement la théologie de Luther et j'aime tellement cette pensée. Aujourd'hui même, voyez le positivisme du gars. On m'annonce la fin du monde demain. Alors, il y en a qui se désespéraient, il y en a qui feraient la fête, mangeons et buvons car demain nous mourrons, voilà. Hein, il y en a, c'est leur verset préféré de la Bible, de nombre de nos contemporains, je crois. Quel est ton verset préféré ? Mangeons et buvons car demain. C'est ton verset préféré, Michel ? Non ? Pas forcément, quoi. Hein. Dans la pratique, oui. Hein. Mais c'est vrai que c'est important aussi hein, de bien manger, de bien boire. Ça fait partie des bonnes choses que Dieu nous donne dans ce monde. Et au ciel, il paraît-il, il y aura des bons vins, etc. Moi, je prends ça littéralement, quoi. Hein. En tout cas, revenons à notre histoire. Il y a là quelque chose de très, très intéressant. À mettre d'abord mettre l'avenir avant le passé. Alors, je conclue en disant ceci, quel que soit notre passé, quelle que soit notre histoire, quels que soient nos échecs, nos épreuves, quelle que soit aussi la période de la vie dans laquelle nous sommes actuellement, peut-être une période de fragilité pour diverses raisons, ou alors même une période où on est bien, où on est prospère, où tout se passe bien, il n'y a pas de défi particulier, eh bien, rappelons-nous que nous sommes invités en tant que peuple de Dieu, comme cela nous a été dit en ce début de culte, à marcher. À nous tourner vers l'avenir, à nous tourner vers devant. Et l'Église, en tant que corps de Christ aussi, dans notre société, dans notre monde, est appelée non pas à faire tourner tout le temps Radio Nostalgie. Oui, nous pouvons être reconnaissants pour nos pères, pour ce qu'ils ont semé, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants et nous sommes débiteurs dans ce sens-là. Mais nous tournons nos regards vers devant. Dieu est le Dieu d'hier, mais il est le Dieu d'aujourd'hui et il sera le Dieu de demain. Et c'est vers demain que nous sommes invités à rêver, à nous projeter, à espérer, à nous lancer dans des projets, à faire ce que Dieu nous met à cœur de faire, que ce soit pour le bien de ce monde et en particulier pour le bien de l'Église, sachant que Dieu nous accompagne et que c'est lui qui fait fructifier nos vies. Et que même si nous passons parfois pendant des déserts qui peuvent durer des années et des années, eh bien sans cesse on tourne les regards vers demain. Je ne sais pas comment Joseph a vécu son temps en prison, je ne sais pas quelle devait être son attitude lorsqu'il se réveillait le matin, se couchait le soir, comment il a vécu ces années passées dans cette prison-là, mais le gars, il avait toujours à l'esprit, j'imagine, demain. En même temps, travailler sur lui-même, oublier et aussi tourner vers demain. Et frères et sœurs, rappelons-nous que si nous pouvons avoir nos regards tournés vers demain, comme cela nous a été rappelé dans cette première partie du culte, c'est grâce à Jésus-Christ. Parce que celui qui fructifie nos vies aujourd'hui, ou nous permet de fructifier nos vies, eh bien, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. C'est parce que Christ est venu, parce qu'il est mort, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a envoyé son Esprit Saint et parce que son Esprit est présent aujourd'hui, que nos vies peuvent être fructueuses. Et par conséquent, nous sommes invités à marcher, non pas comme on l'a vu hier dans l'occultisme, et c'est ça le grand problème de l'occultisme, de marcher par la vue, parce que dans l'occultisme, on marche par la vue, par ce qu'on voit. Nous, en tant que chrétiens, nous ne marchons pas par la vue, par les signes. Nous accueillons les signes que Dieu nous donne, mais nous marchons pas par les signes, nous marchons par la foi. La foi en ayant notre regard tourné vers Jésus. Amen. Je vous invite à la prière, frères et sœurs. Et je vous invite juste d'abord, avant de conclure par une prière, juste un moment de silence intérieur. Voilà. Et peut-être vous poser la question, qu'est-ce que je devrais laisser ce matin ? Est-ce qu'il y a des valises? Est-ce qu'il y a des sacs que je devrais laisser? Un petit peu comme ces poubelles aussi parfois qu'on va jeter, vous savez, ou alors ces sacs qu'on laisse ou qui sont dans nos greniers ou dans nos caves. On va entasser toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme sac, comme chose que je devrais laisser dans ma vie? Oublier, laisser ça en arrière et dire une bonne fois pour toutes, maintenant j'arrête de revenir là-dessus, de ressasser toujours ça. Et puis pour quels événements peut-être de votre passé devriez-vous être reconnaissant ou simplement dire, eh bien Seigneur, je reconnais que tu portes ça à mon crédit. Ce n'était pas ta volonté que je souffre, que je vive ceci ou cela, mais je reconnais que, bien, toi tu as utilisé ça ou tu veux utiliser cela pour m'amener plus loin maintenant. Et posez ça tout simplement dans la prière. Dites à Dieu, je dépose ça. Je dépose ces sacs, je dépose ces valises, je dépose ces bagages, je ne les veux plus, ces trucs-là. Et puis vous dire aussi, eh bien Seigneur, aide-moi à porter les regards vers demain. Parce que je veux croire que ma vie va fructifier. Et ça, c'est à chacun d'entre nous de le faire, de dire volontairement, je tourne mes regards, je porte mes regards vers demain. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te remercier pour ta parole. Nous te remercions aussi pour cette histoire, ces deux noms, Éphraïm et Manassé, que Joseph a donné à ses enfants, oubli et fructifié. Seigneur, ces noms qui sont tellement riches en termes de symbolique, qu'ils sont tellement représentatifs aussi de sa vie et du reste de la vie de bien des personnages de la Bible et de nos vies aussi personnelles. Seigneur, nous voulons bénir nos vies, Seigneur. Moi, je veux bénir cette Église avec cette bénédiction. Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé. Puisse mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, eh bien, puissent-ils être à l'image de ces hommes, c'est-à-dire oubliés et fructifiés. Seigneur, nous voulons aussi bénir nos familles avec cette bénédiction, non pas dire des paroles mauvaises ou des paroles de malédiction ou qui enfermeraient nos chairs, mais nous voulons les bénir, Seigneur, et dire qu'ils vont être à l'image d'Éphraïm et de Manassé, que eux aussi qui ont vécu des événements douloureux dans leur vie, parfois certains de jeunes, de nos familles, nos enfants, eh bien, vont pouvoir oublier. Et ils vont pouvoir se projeter dans l'avenir et fructifier dans ce monde et fructifier dans le royaume. Nous les bénissons, Seigneur, en ton nom. Seigneur, je bénis aussi cette Église et je te remercie, Seigneur, pour l'existence de cette communauté, de toutes ces communautés ici, que ce soit sur Kévin, Lorient, dans ce département du 56. Seigneur, ici, les églises, tu vois combien c'est un défi, Seigneur, dans cette terre qui reste une terre missionnaire. Eh bien, je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont tournés vers l'avenir, qui ont dit, il y a un peuple, il y a quelque chose à faire. Et Seigneur, il y a encore quelque chose à faire dans cette terre-là. Il y a des hommes et des femmes à gagner à la foi. Il y a des églises qui sont appelées à naître. Il y a des églises qui sont appelées à fructifier, à grandir. Et c'est ce que nous souhaitons, Seigneur, pour nos vies, pour ton peuple ici. Et nous voulons te rendre toute la gloire parce que c'est toi, grâce à Jésus-Christ, qui nous permet d'être riches, Seigneur, intérieurement, de fructifier, de développer les dons, les talents. Et nous voulons continuer, Seigneur, de te servir avec la force que tu nous donnes, avec l'intelligence que tu nous donnes, avec les finances que tu nous donnes, avec les capacités que tu nous donnes, avec les dons que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons les mettre à ton service dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, te servir de tout notre cœur, de tout notre être. Pardonne-nous aussi, Seigneur, si souvent d'avoir gardé nos yeux tournés vers derrière nous, Seigneur, d'avoir fait tourner cette radio sans cesse, Seigneur, de nous être plaints aussi, comme on l'entendait ce matin, d'avoir été les regards fixés sur nous-mêmes, d'avoir été, Seigneur, centrés sur notre propre nombril. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Décentre-nous de nous-mêmes. Décentre-nous, Seigneur, de nos propres égaux, pour que nous puissions nous centrer vers toi, nous centrer vers ta personne, nous centrer vers demain, où tu nous appelles à vivre, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits encore. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Puisse l'Éternel faire que vous soyez à l'image d'Éphraïm et de Manassé. Amen. Amen.